Quelle grâce de nous retrouver sous le regard de Dieu. Vous en êtes conscient? Oui, moi j'en suis conscient. Alors j'aimerais lire avec vous une question. Une question dans l'Apocalypse. Une question terrible. Aujourd'hui j'ai lu l'Apocalypse et je lisais certaines choses pour comprendre une étude que je veux faire prochainement. Mais dans l'Apocalypse au chapitre 6, il y a un verset à la fin. Verset 17, c'est Jésus qui parle. N'oubliez pas que tout est inspiré par Dieu, mais que là, la révélation que Jean a reçue est une révélation du Seigneur Jésus lui-même. Et une question est posée. Une question est posée qui est justement la réponse au cantique qu'on vient de chanter, au dernier cantique. Jusqu'à quand le jour de grâce va-t-il durer? Eh bien, jusqu'à ce jour-là. Apocalypse 6, verset 17, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Et vous avez vu, juste au-dessus, au verset 16, il disait aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Ces deux mots qui sont complètement contradictoires. Un agneau ne se met pas en colère. Ce qui caractérise un agneau, c'est ça. Douceur, son humilité. D'ailleurs, Jésus est appelé, c'est volontaire. Jésus est appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On l'a amené comme un agneau, une brebis, pareil, à l'abattoir. Il n'a rien dit. Et là, tout d'un coup, dans l'Apocalypse, il nous est parlé de la colère de l'agneau pour que nous comprenions bien que celui qui a été l'agneau de Dieu, eh bien, amènera aussi un temps de jugement. C'est quand même un drôle de livre, le livre de l'Apocalypse. Mais les chrétiens ne sont pas concernés par tout ce qui va arriver. C'est pour ça qu'au début, il est écrit « Heureux celui qui lit ce livre ». Parce que laissez-moi vous dire que s'il fallait que l'on vive ce qui est décrit dans les fléaux, les coupes, les trompettes, croyez-moi, ça fait froid dans le dos. Si on croit vraiment que ça va arriver, laissez-moi vous dire qu'on ne serait pas heureux de lire ces choses. Mais si vous avez accepté Jésus comme sauveur, croyez-moi, vous êtes épargnés de la colère à venir. Alors justement, on va le lire dans les Thessaloniciens. Dans les Thessaloniciens, il est parlé, parce que les chrétiens se sont toujours posé des questions, de tout temps, les chrétiens se sont posé des questions, comme on l'a chanté d'ailleurs, Lucas nous le rappelait, cette grâce, jusqu'à quand va-t-elle durer? Ça fait 2000 ans qu'elle dure. Quand il y a eu les problèmes avec les djihadistes, là j'avais regardé une fois une émission, c'est dans l'air. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Il y a des fois, l'animateur de cette réunion, il invite des gens compétents et intelligents qui sont capables de mener un vrai débat. Et il y avait ce soir-là, à cette réunion, un spécialiste des prophéties. Spécialiste, mais qui n'est pas converti. Et je regrettais de ne pas avoir été invité ce jour-là parce qu'il m'aurait entendu. Et le gars, il expliquait que Jésus ne pouvait que s'être trompé, parce que dans l'Apocalypse, il est dit plusieurs fois, « Je viens bientôt ». Et que le gars, il disait, « Mais vous comprenez bien que Jésus, il ne sait pas ce qu'il racontait. Il a dit qu'il venait il y a 2000 ans. » Un gars, un pro. Il a dit ça, et vous comprenez bien que ça fait 2000 ans que ça dure, il y a de quoi rire, c'est pathétique, etc., etc. Mais bien sûr, il n'a pas compris la bonté de Dieu, la patience de Dieu, que pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour, et cet homme qui se targuait de connaître les prophéties n'y comprenait absolument rien du tout. Moi, je bénis Dieu que la grâce, elle ait duré jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, façon de parler. Alors, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, les Thessaloniciens se posaient beaucoup de questions parce que des faux docteurs étaient passés dans l'église et avaient enseigné des choses qui n'étaient pas bien. Donc, Paul écrit cette lettre, 1 Thessaloniciens chapitre 5, et au verset, on va lire le verset qui nous intéresse. Quoique non, on va lire à partir du verset 1er. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'en avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes donc point de la nuit ni des ténèbres. Et au verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc quand vous lisez la parole de Dieu, vraiment quelqu'un qui a lu la Bible avec son cœur a compris une chose, c'est que ceux qui recevront la grâce de Dieu ne connaîtront pas la colère de Dieu. Que son nom soit béni. Et c'est une des plus grandes bénédictions. Si vous allez sur des sites scatologiques, sur la fin des temps, etc., il y a tout et son contraire. Mais absolument tout. Tout. Mais moi, je vous le dis, parce que c'est biblique à 100%, ceux qui seront dans la grâce ne connaîtront pas la colère de Dieu. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par sa parole, par les événements, par tout ce qui se passe sur la terre. Et la Bible dit que Dieu fait toutes choses en son temps. Que même les jugements que nous commençons à voir poindre un peu partout sur la terre, nous indiquent que la colère de Dieu approche, mais qu'elle n'est pas encore là. Vous trouvez que c'est comment, vous, ce qui se passe sur la terre aujourd'hui, en soupçonnant qu'on ne connaît que peut-être le dixième de ce qui se passe. Parce que tous les pays où les journalistes sont rejetés, refusés en bloc, il se passe des choses beaucoup plus graves que ceux dont on est informé. Vous me suivez? Il y a des pays où les journalistes n'ont pas droit de citer. Et croyez-moi, dans ces pays-là, il se passe des choses terribles. Mais à la vue de ce qui se passe, on peut dire quand même ça va mal, non? Et pourtant, laissez-moi vous dire que ce n'est rien à côté de ce qui va arriver. Si vous avez lu l'Apocalypse, vous comprenez que ce sont des choses terribles qui vont se poursuivre sur la surface de la terre. Alors Jésus l'a dit, je vous ai tout annoncé à l'avance. Et voilà, et nous prêchons ici, ailleurs, partout, dans toutes les églises du monde, on prêche la grâce. Et ce soir, si je vous disais, voilà, vous êtes perdus, moi j'ai entendu un jour quelqu'un qui a dit, voilà, vous êtes perdus, c'est trop tard et tout. Est-ce que c'est juste ça? Non. Tant que Jésus n'est pas revenu, la grâce est accessible et disponible. Ce soir, n'importe qui peut obtenir la grâce de Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Voilà. Mais cette grâce-là, elle va s'achever. Et franchement, il faut vraiment être aveuglé pour ne pas le considérer. Vous avez remarqué que plusieurs fois dans la Bible, ça c'est peut-être pas facile à remarquer, quoique j'en parle souvent, il est dit, mais vous n'avez pas voulu. J'ai voulu ceci et vous ne l'avez pas voulu. Combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. C'est une belle image ça, non? Est-ce que vous avez déjà vu des poussins sous une poule? C'est une image extraordinaire. Eh bien, Dieu utilise cette image pour nous expliquer ce qu'il veut, le bien qu'il nous veut, combien il nous veut en sécurité, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes. Quand vous pensez à ça, quel mot vous vient à l'esprit? Allez, quand vous voyez les poussins, quel est le mot qui vous vient à l'esprit? Comment? La sécurité, alors pour vous. Encore, allez, des mots quand même. Comment? La protection. La protection, oui, ça c'est sûr. Protection. Alors sécurité, protection. L'amour, ah oui. Est-ce qu'il n'y a pas de la tendresse dans ces petits poussins là qui sont à l'abri, des fois on voit juste le bec qui dépasse? Il y a plein de petites images comme ça qui nous parlent de sécurité, de tendresse, d'amour, de protection, de faveur, etc. Et on en a besoin. Et on en a besoin. Franchement, qui pourrait dire qu'on n'a pas besoin de tendresse, de chaleur, d'affection? J'ai relevé une liste, incomplète, de ce que notre âme peut vivre. Mon âme est languissante. Mon âme se brise par le désir, par le chagrin. Mon âme pleure de chagrin. Tire mon âme de sa prison. Mon âme se courbait. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Tu sais les angoisses de mon âme. Mon âme est troublée. Mon âme est dans l'amertume. Mon âme est découragée. Mon âme est nonchalante. Mon âme est souffrante. Mon âme est dégoûtée de la vie. Mon âme est desséchée. Et je n'ai pas tout noté parce que je trouve que ça commence à faire beaucoup. Ce n'est pas ça que notre âme peut traverser parfois. Est-ce que vous pouvez dire oui, c'est vrai ces choses? C'est vrai. Hein? Après, il y a les autres textes, j'en ai noté quelques-uns. Mon âme est rassasiée, j'ai l'âme calme et tranquille, il restaure mon âme tressaille de joie. Enfin, que vous le vouliez ou non, vous avez énormément de textes dans la Bible qui nous montrent que notre âme a besoin de sécurité, d'affection, de tendresse. Et je ne sais pas dans quel monde vous vivez, dans comment vous voyez le monde, mais une chose est sûre, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et Dieu veut être votre refuge. Est-ce que vous pouvez dire ce soir, oui, Jésus est mon refuge. Je l'ai accepté, je sais que sur le bois de la croix, il a souffert pour moi, il est mort pour moi, il a donné sa vie pour mes péchés, il a versé son sang pour me laver, et ça, je l'ai accepté. Parce que la colère de Dieu, elle vient. Si la grâce de Dieu, elle est là, les gens, ça me fiche carrément. Vous parlez de Jésus aux gens, les gens, ils vous rayonnent, ou ils vont vous dire, oui, mais si Dieu existait, mais il ne serait pas passé ce qui s'est passé avant-hier. Oui, vous comprenez ce que je veux dire. Ne réalisant pas que Dieu nous a fait tous responsables et que nous devons assumer ces responsabilités. En tous les cas, tout ce qui se passe, tout ce que les hommes sont en train de faire, attire la colère de Dieu. Vous savez, j'ai vu une journaliste, je vous le dis parce que il faut l'entendre. J'ai vu une journaliste qui a expliqué que ceux qui n'étaient pas Charlie, tenez-vous bien, il fallait presque les dénoncer parce qu'ils étaient contre la société. Je peux vous le montrer l'article, je l'ai regardé. Non mais, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire, elle expliquait qu'en fin de compte, il fallait qu'on soit tous des blasphémateurs. Vous vous rendez compte? Mais en plus, elle disait ça avec beaucoup de volubilité. Vous savez, les journalistes, ils savent s'exprimer. Il y en a qui sont très forts dans la syntaxe pour vous faire comprendre les choses. Mais moi, j'entendais ça. Je l'ai réécouté plusieurs fois. Et je vous assure que c'est très grave. Et quand la Bible dit que la colère... Vous êtes dans les Thessaloniciens? Vous avez toujours votre Bible ouverte dans les Thessaloniciens? 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 16. On va lire que la dernière partie du verset, la dernière phrase de ce verset. Mais c'est pour que vous compreniez bien, si c'est déjà c'était dénoncé il y a 2000 ans, combien aujourd'hui ça s'est profondément aggravé. Et quand il est dit 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 16b, qu'on appelle la dernière parole, mais la colère a fini par les atteindre. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de chercher, enfin, pas nous les chrétiens, mais ce que le monde est en train de provoquer Dieu. Il provoque Dieu par l'homosexualité. On a dépassé des bornes, mais là, par le blasphème, c'est volontaire. Mais je vous assure, moi j'ai écouté ça, j'ai dit, mais cette journaliste, elle est folle. Mais elle parlait au nom de la société, elle parlait au nom des politiques qui expliquaient que le meilleur moyen de dénoncer les empêcheurs de tourner en rond, c'était les gens qui étaient contre Charlie. Mais ça vous montre combien on est en train d'attirer la colère de Dieu. Et quand Jésus pose la question, la colère, le grand jour de la colère est venu, qui peut subsister ? Il faut bien comprendre qu'il y a des choses qui attirent la colère de Dieu. Nous, on préfère attirer la grâce. Quand on se réunit, quand on prie, eh bien, on demande la grâce de Dieu. Est-ce que vous croyez qu'on peut demander la grâce de Dieu sur une nation, sur une famille, sur des gens? Est-ce qu'on peut demander la grâce de Dieu? Mais oui, et on doit le faire, on doit s'appliquer. Il est dit, approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir la grâce. Mais tout ce que l'on voit fait, enfin tout ce que l'on voit qui est mauvais, fait que l'on attire la colère de Dieu. Tout. Vous pouvez regarder, si vous avez un peu de bon sens, vous pouvez dire, mais qu'est-ce que ça génère dans l'esprit de nos enfants, dans l'esprit de la société? Est-ce qu'on n'est pas manipulé, etc., etc. Oui, la colère de Dieu, elle vient sur les fils de la rébellion. Et béni soit Dieu, comme il est écrit souvent, que Dieu soit lent à la colère. Vous ne trouvez pas que c'est une bonne bénédiction? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? D'après vous, est-ce que Dieu aurait pu revenir plus tôt? Vous avez vu des films sur la Deuxième Guerre mondiale? Que devaient penser les chrétiens pendant la Deuxième Guerre mondiale? Quand nos villes en Europe étaient toutes bombardées aveuglément. Vous avez vu, aujourd'hui, les bombardements, ils sont ciblés. Des fois, il y a un bombardement qui dérape, mais vous avez vu les bombardements à la guerre, c'est un truc de fou. Vous avez vu comment ils bombardaient les villes? C'était à l'aveugle total. Que devaient penser les chrétiens il y a 75 ans, qu'est-ce qu'ils devaient penser d'après vous? Que c'était la fin, non? Franchement, vous ne pensez pas qu'ils devaient se dire, mais c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin du monde. Et pourtant, vous voyez, Dieu patientait. Dieu patientait, et Dieu patient, Dieu est saint, il est parfait, sa grâce, elle est juste, sa bonté, elle est juste, ses jugements seront justes. C'est écrit dans l'Ancien Testament, mais on va lire un verset quand même dans l'Apocalypse. Tiens. C'est important parce que nous, on n'est pas capable, même le plus spirituel parmi nous n'est pas capable de comprendre. Regardez dans l'Apocalypse, au chapitre 15, parce qu'il faut que vous compreniez bien que Dieu ne se trompe jamais. Il sait ce qu'il doit faire et quand il doit le faire. Nous sommes dans la grâce, oui, c'est encore jour de grâce, on va chanter. Mais regardez au chapitre 16, j'avais dit 15 ? Bon, c'est bien, c'est au chapitre 16. C'est pendant les coupes. Apocalypse chapitre 15, verset 4. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Et elles devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils le méritent. Et j'entendis de l'autel un autre ange qui disait, « Oui, oui, c'est quelque chose dans la Bible. Hein? Oui, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Nous, nous sommes là, nous évaluons, nous regardons, nous essayons de comprendre, mais il faut bien que nous comprenions que depuis le début jusqu'à maintenant, il y a la grâce, et la grâce elle va s'achever, et que les jugements seront justes, et même saints. Tout ce que Dieu fait est intelligent. Nous, on ne le comprend pas, ça. Nous, les gens, ils sont, oui, si Dieu existait, ça vous montre... L'aveuglement, l'ignorance, on peut dire même la bêtise, la stupidité, on peut parler de stupidité puisque Dieu en parle, hein, de l'analyse des gens, même des gens qui se disent parfois croyants. Ce que Dieu fait sera parfait. Quand la grâce s'achèvera, la colère va venir. Là, je peux vous dire que ça va vraiment, vraiment, vraiment aller mal sur la surface de la terre. Et les hommes sont en train de choisir. Je vous parlais tout à l'heure de Charlie Hebdo, j'en parle un peu plus maintenant parce que le temps a passé, les gens sont moins à vif. Mais en fin de compte, les gens sont en train de choisir. Ce qui s'est passé avec l'homosexualité, ça fait que les gens choisissent. Mais là, ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, ça montre vraiment que les gens sont en train de choisir le blasphème. Et quand vous lisez l'Apocalypse, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, les gens vont blasphémer. Ils vont... aimer le blasphème. Regardez, on va voir quatre textes dans l'Apocalypse. Il faut que vous lisiez ce livre. Il faut le lire plusieurs fois, ce livre. Parce que c'est un livre... Il faut le lire avec le livre de Daniel. Si vous voulez le comprendre, il vous faut vraiment lire plusieurs fois le livre de Daniel pour comprendre le livre de l'Apocalypse. Mais quand vous lisez ce texte, vous vous rendez compte que les hommes sont en train... ont déjà choisi. Apocalypse, chapitre 9, verset 20. Comment vont réagir les gens lorsque les coupes, les trompettes, etc. vont se manifester? Comment ils vont réagir? Comment ils vont réagir? Ils ne veulent pas de la grâce, bon. Mais comment vont-ils réagir pendant le jugement? Apocalypse 9, verset 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol. Regardez leur réaction. Apocalypse 16, verset 9. Regardez comment les gens vont réagir. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux, ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Verset 11, après la cinquième coupe. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Verset 21. Et une grosse grêle dont les grelons pesaient un talent, ça veut dire 49 kilos de sang. Des grêlons de 49 kilos, ça, c'est déjà des grosses boules. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, un grêlon, déjà, vous avez vu un grêlon comme le cache-micro, là, c'est déjà comment ça peut faire du mal. Vous imaginez un grêlon de 49 kilos? Combien vous pesez, Madame Delabre? 49, mais c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Quand vous lisez l'Apocalypse, alors d'un côté, vous voyez une foule de gens qui, pendant l'Apocalypse, vont venir à Dieu, parce qu'ils vont se rendre compte que, on le verra dimanche après-midi lorsqu'il est parlé du nom inscrit dans le livre de vie. Mais mes frères, les gens vont blasphémer, parce que les gens, ils sont en train de choisir. Et qu'on le veuille ou non, aujourd'hui sur la terre, les gens sont en train de choisir. Vous voyez ce qui s'est passé, cet avion qui s'est fracassé là, parce qu'un type malade s'est certainement suicidé, vous rendez compte, et a assassiné tous ces gens. Les gens, ils vont réagir à ça. Ils vont réagir. Ça nous montre plusieurs choses, c'est pas moi de les expliquer. Mais une chose est certaine, c'est que tout ce qui se passe, qu'on le veuille ou non, on est informé ou manipulé pour choisir. Et où on se dit, oui, les hommes ne veulent pas de Dieu, voilà les conséquences. La grâce de Dieu va s'achever, parce que Dieu sait très bien quand la grâce de Dieu doit s'achever, et Dieu sait très bien quand la colère doit venir. Alors, est-ce que vous avez fui la colère? C'est ce que Jean-Baptiste prêchait d'ailleurs. Fuyez la colère à venir. Elle vient, la colère. Parce que la grâce de Dieu, c'est merveilleux, la grâce de Dieu. Vous y croyez, dans la grâce de Dieu. Mais est-ce que vous croyez dans la colère de Dieu? C'est comme le paradis. Vous croyez dans le paradis? Vous croyez dans l'enfer? Etc. On pourrait multiplier toutes les données bibliques. Mais ce soir, vous êtes vraiment heureux si vous pouvez dire « Jésus est mon refuge. Je suis à l'abri du jugement. » Voilà les gens les plus heureux de la terre. Le sang de Jésus m'a lavé. Je suis justifié, non pas parce que je suis super intelligent, parce que j'ai fait des œuvres, je suis justifié parce que je crois que le sang de Jésus a été versé. Il m'a racheté, il m'a délivré par son sang, etc., etc. Voyez, mes frères et sœurs, la colère, elle va venir. Et combien je voudrais que ce soir vous puissiez dire, oui, mais moi je suis... Parce que c'est une question. Le jour de la colère est venu, qui peut subsister? Ces questions-là, elles sont posées, c'est Dieu qui les pose. Eh bien, qui c'est qui subsistera? Eh bien, celui qui est sous le sang du Seigneur. Alléluia. Et si vous dites, moi, je suis sous le sang du Seigneur, eh bien, vous ne connaîtrez pas la colère de Dieu. Vous êtes bien, vous n'êtes pas bien. Vous avez fait des œuvres, vous n'en avez pas fait. Les œuvres, c'est une chose. Si vous êtes sous le sang du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes sauvé de la colère. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si vous avez accepté Jésus-Christ, et si vous vous êtes repenti de vos péchés, si vous avez dit, oui, je suis un pécheur, je suis un pauvre type, c'est pour ça, oui, un pauvre pécheur, ça indique la misère dans laquelle nous nous trouvons, ça n'a rien à voir avec l'aspect financier, ça n'a rien à voir avec l'aspect social, c'est un problème spirituel, je suis un pauvre type, je suis un pécheur, j'ai besoin d'être lavé dans le sang du Seigneur. Et si vous dites, voilà, bien sûr, il ne faut pas vivre dans le péché. Si vous vivez continuellement dans le péché, il y a un truc qui ne va pas. Mais si vous vivez dans l'obéissance, si Seigneur, je t'accepte comme sauveur, eh bien voilà, je ne serai épargné de la colère. La colère, elle vient. Franchement, il n'y a pas besoin d'être prophète. N'importe quel païen doit comprendre que les choses vont aller de plus en plus mal. Vous le croyez, ça? On le sent venir. C'est évident. Et oui, je peux vous dire qu'on n'a pas tout vu encore. Mais ceux qui sont en Jésus-Christ, sont sauvés de la colère. Alléluia. Vous pouvez tous dire amen. Hein? C'est fini. La prédication est finie, oui. Mais vous pouvez dire amen. Ah, mais vous pouvez le dire, hein? Merci Seigneur. Non? Ouais. Moi, vous savez, une des choses qui m'a le plus choqué presque dans la Bible, oui, choqué, c'est que quand ils ont construit l'arche, les animaux ont été plus intelligents que les hommes, presque. Comme ils étaient de chrétiens, 8. Ça fait pitié, non? Vous ne pensez pas comme moi? Combien de gens sont prêts? Je pense qu'il y a des millions de gens qui sont prêts. Mais vu les 7 milliards 200 millions de gens qui peuplent la terre, combien de gens sont prêts? En tous les cas, nous, on a choisi de venir dans sa maison ce soir parce qu'on se plaît dans sa maison. C'est pas vrai? On est venu chercher le royaume de Dieu. On est venu lui dire merci. Et on est venu terminer par la prière. Vous voulez bien qu'on termine la journée par la prière? Nous te bénissons, Seigneur. Oui, tu nous as tout annoncé à l'avance. Et si nous sommes heureux, nous, ce soir, d'être dans ta maison, de lire ces choses, de les relire. Seigneur, c'est un effet de ta grâce, nous le savons. Nous sommes comme Noé, ces enfants dans l'arche, et nous te prions tant que la porte est ouverte, Seigneur. Nous ne voulons pas juger le comportement des gens. Nous te prions pour les habitants de ce pays, Seigneur, te demandant de les interpeller, comme tu l'as fait pour nous, afin que, comme c'est encore jour de grâce, ils puissent entrer. Nous le savons, Seigneur, que cette colère va finir par atteindre ce monde. Eh bien, aide-nous à être de bons chrétiens, Seigneur, qui sauront parler de toi, qui sauront communiquer ta bonté, qui sauront témoigner de ton amour à ceux qui en ont vraiment besoin. Tu vois, tous ces gens qui vont mourir dans les heures à venir et qui ne le savent pas, comme ces gens dans cet avion qui sont partis dans l'éternité, tu vois tous ces gens qui vont partir dans les heures, les jours à venir et qui ne le savent pas. Seigneur, dans ta grâce, interpelle-les, afin que comme ce brigand sur la croix, ils aient l'intelligence de crier vers toi une dernière prière. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour ta grâce infinie, oui. Pour ta grâce éternelle qui dure, qu'elle se projette dans la vie de nos enfants et de nos familles. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.